Culture Média, où on continue, Philippe, à parler dans l'infomédia du jour de Jacques Chirac, qui nous a quittés hier et qui a marqué la vie politique française.
Oui, c'est évidemment la disparition de Jacques Chirac qui fait la une de tous les journaux aujourd'hui. Hier, les chaînes d'info, mais également les grandes chaînes, ont cassé leur antenne et diffusé des émissions spéciales. Une information qui vient de tomber, on vient de l'apprendre, Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse, aux côtés de sa fille Laurence. Jacques Chirac est un animal politique, c'était également une bête médiatique. Quels étaient ses rapports avec les journalistes? Que livrait-il? Que gardait-il pour lui? Pour en parler, je reçois Christine Claire. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié dans les années 90 le journal intime de Jacques Chirac. C'est en 4 tomes chez Albin Michel. Et je reçois Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes tous les matins sur CNews à 8h15 pour l'interview politique. Et vous avez vous aussi également très bien connu Jacques Chirac. Christine Claire, c'était facile de travailler avec Jacques Chirac?
Pas si facile, malgré les apparences de cordialité, d'ouverture. Moi, je l'ai connu comme ministre de l'Agriculture. À l'époque, j'étais journaliste agricole et sociale. Et il était dans sa phase anti-européenne. Et puis, il a fait des grandes déclarations qu'on a appelées l'appel de Cochin contre l'entrée de la France dans l'Europe. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Bernadette Chirac. Et Bernadette Chirac, à l'époque, ne voyait pas du tout les journalistes. Mais elle m'a dit, je suis allée la voir en Corrèze, et elle m'a dit, ça peut pas durer, cette guerre contre Giscard, et puis cette Marie-France Garraud. Il y avait Marie-France Garraud
qui était une conseillère.
Qui était d'ancien conseiller de Pompidou, et qui manipulait, d'après elle, le Chirac, ce sera elle ou moi. Bon. Et j'avais fait une grande interview dans Elle. Et l'interview a fait scandale, elle a republié 5 fois, Chirac m'a appelé, c'est la Bérésina, etc. Et puis j'ai cru que les choses avaient été réparées, et puis pas du tout, ça s'est envenimé parce qu'ils ont commencé à penser, ou quelqu'un leur a dit que je devais être au service de Giscard, c'était la
Ah bon, ça commence mal, votre carrière avec Chirac.
Donc, finalement, j'ai été carrément en quarantaine pendant
combien de temps? Donc, c'était pas facile
années.
Alors.
Non,
donc, vous répondez
pas facile.
À une partie de ma question.
Il avait ses journalistes de confiance, si je peux dire, depuis des années. Et vis-à-vis des autres, il était extraordinairement méfiant. Et quand Claude Chirac a commencé à s'occuper de sa communication, j'allais dire, ça a été pire pendant un moment.
Alors, avant de donner la parole à Jean-Pierre Elkabbach, je précise quand même, vous avez réussi à écrire 4 livres sur lui, mais sans le voir ou tout en le voyant?
Tout en le voyant quand même, mais je l'ai revu après en campagne présidentielle. Il est devenu beaucoup plus, j'allais dire, aimable, en tout cas ouvert aux journalistes.
Même question.
Et j'ai revu Bernadette, mais puis après on s'est de nouveau fâchés. Enfin, je vous expliquerai pourquoi.
Ouais. Même question, Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce qu'il a été facile de travailler avec Jacques Chirac? Étiez-vous un journaliste de confiance?
Pas du tout.
Décrits...
Non, pas du tout. Ils étaient rares, les journalistes de confiance. Oui. Et peut-être il y avait quelques consoeurs, surtout, qui étaient des journalistes de confiance. Moi, je voudrais dire que longtemps, un des drames de Jacques Chirac, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui. Et que certains de ses conseillers d'alors, de l'époque, qui le tenait, et vous avez cité Marie-France Garraud, Pierre Juillet, l'enfermait dans cette certitude qu'il était mauvais. Et ces doutes de Jacques Chirac sur ses propres capacités le rendaient mal à l'aise devant la presse et avec nous. Il était coincé, il était agressif. Je pense que son expression ne correspondait pas à l'ampleur de sa pensée. Il improvisait mal, il cherchait ses mots, il craignait d'aller trop loin et en général il allait nulle part. Il prenait chaque question pour une sorte d'agression contre lui. Et participer à des émissions longues, comme il l'a fait quelquefois, devait être pour lui une forme de calvaire ou de torture. Et pour nous, qui l'interrogeons, c'était aussi des nuits sans sommeil, je l'ai dit. Face à lui, au début de Cartes sur table avec Alain Duhamel, je pense que j'ai connu les pires moments professionnels.
Ah oui ?
Ah oui, sans aucun doute. Et Christine doit se souvenir de Denis Baudouin, qui était son conseiller de presse, une stature, corpulent, etc., qui avait travaillé avec Georges Pompidou. Avant les émissions que nous faisions avec Alain Duhamel, les Cartes sur table, il venait près de nous avec un mégot à la bouche, mais juste pendant le générique ou la publicité, il nous y dit, faites attention les amis, parce qu'il est dans un état, je vous dis pas, c'est-à-dire qu'il accroissait le
stress des deux côtés.
Le stress, la menace était vraie, parce qu'avec Jacques Chirac, tout était vrai. Et à l'époque, il était en guerre contre tout ce qui pouvait entraver sa conquête du pouvoir. Il était redoutable et redouté. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de Jacques Chirac, arrive à maturité, assez âgé, président de la République. Mais quand nous l'avons connu, nous, il était grand, il vous toisait du haut de son 1m90, il avait son charisme, il était beau, il incarnait la puissance et l'énergie. J'ai envie de dire, c'était une fringale de vie et de pouvoir. Mais... c'était un ogre et une bête dans l'arène politique.
Mais alors, c'est incroyable que vous parliez de ça, puisque c'est la question que j'avais préparée. Ensuite, je me souviens que moi j'étais jeune, Jacques Chirac était jeune, moins que moi, mais il était jeune aussi, puisque là j'avance pour tout le monde pariment. Et il était très très coincé, très très guindé. Il est devenu une sorte de figure du cool. Il a travaillé, ou est-ce que c'est simplement l'usure du temps, l'effet du temps, comme Mitterrand, me souviens, qui a été très dur. Ou est-ce qu'il a travaillé avec des conseillers ?
Il a été rassuré sur lui-même en gravissant, parce qu'il faut bien dire qu'il a connu beaucoup d'échecs, même s'il a occupé un nombre de postes considérables. Mais sur la présidence, à la présidence de la République, il a connu des échecs avant d'être élu. Ouais. Si bien qu'il était rejeté, y compris par les siens, enfin, des gens. Bon. Donc, c'était évidemment que ça engendrait un manque de confiance ou des interrogations. Et finalement, ceux qui s'occupaient de lui, et c'est à ce moment-là qu'il a fait entrer sa fille Claude, ceux qui s'occupaient de lui, pensaient qu'il fallait qu'il communique le moins possible. Sous-entendu, il n'était peut-être pas très bon, finalement, ou il parlait trop.
Mais c'est incroyable, parce que quand on le voit maintenant, il est excellent.
Il est excellent.
Mais toujours trop maîtrisé. Quand il y avait des émissions, par exemple, ou des rencontres, il était face à la presse, et au bout de la salle, il y avait Claude Chirac.
Qu'il surveillait.
Qu'il a surveillé, protégé, materné, si on peut dire, même de la part de sa fille. Il faut lui rendre hommage pour ça aussi. Elle était là, et il la regardait en permanence. Il savait s'il devait continuer. Continuer ou pas continuer.
Je veux dire, ce qui est incroyable dans ce que vous racontez, mais parce que moi je ne l'ai pas connu, pardonnez-moi, moi je ne l'ai pas connu intimement comme vous. Ce qui frappait de l'extérieur, de l'autre côté du poste où j'étais, c'était au contraire sa foi en lui. Moi je me souviens de ce moment en 95, on est en pleine campagne présidentielle, Chirac est au plus bas dans les sondages, on dit même que Balladur pourrait passer au premier tour. 9 janvier 95, Arlette Chabot ose lui demander s'il compte renoncer à sa candidature.
Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, monsieur Chirac.
Vous parlez sérieusement là, ou vous faites de l'humour ?
Vous voulez dire quelque chose, Jean-Pierre ?
Oui, d'abord, je me souviens très bien de cette période, parce que je présidais France Télévisions, et je sais après les engueulades que j'ai eues, moi, de Jacques Chirac...
Sur cette question.
Et sur une autre question d'un journaliste qui présentait le journal à l'époque, Lénard, Étienne Lénard, et qui lui avait dit en première question, « Qui êtes-vous, monsieur Chirac ?» Il a regardé, il a dit, « Hein ? Qui je suis ?» Et quand il est sorti, il m'a appelé pour m'engueuler qu'on lui pose de telles questions. Il faut savoir que c'était un guerrier impitoyable, que c'était un type qui a tué ses adversaires et ses compétiteurs. Et il est allé après d'échec en échec, et c'est ce matin sur Europe, Christine Albanel, qui a travaillé avec lui pendant 22 ans, qui racontait qu'entre 88, après la défaite face à François Mitterrand, la raclée que lui avait donnée Mitterrand, Jacques Chirac était mort. Il était mort politiquement. Entre 88 et 94, personne ne pensait qu'il pouvait revenir.
Et nous non plus. L'anecdote. Et la suite, juste après ça.
L'infomédia du jour est consacré à Jacques Chirac. On y revient dans un instant avec nos invités. Sachez également que vous pouvez retrouver un podcast événement sur vos plateformes d'écoute habituelles. Podcast Europe 1 sur Jacques Chirac. Chirac, une histoire française. Une série qui relate la vie de Jacques Chirac à travers des analyses, des récits, des témoignages et des archives. Culture Média revient juste après ça sur Europe 1. L'infomédia du jour, au lendemain de la disparition de Jacques Chirac, lui est bien évidemment consacré. Vous en parlez, Philippe Vandel, avec vos invités, la journaliste politique Christine Claire, Jean-Pierre Elkabbach, qui sont tous les deux avec nous dans ce studio, et Jean-François Alain, auteur des Guignols, qui est avec nous par téléphone.
Bonjour Jean-François Alain.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des auteurs historiques des Guignols, la grande époque, comme on dit, avec avec Benoît Delépine et Bruno Gassiot. Les Guignols qu'ont fait de Jacques Chirac un personnage absolument extraordinaire, sinon votre meilleur personnage. Je vais dire les choses de manière courte, Jean-François, c'est vous qui avez inventé les couteaux plantés dans le dos par le clan Balladur, mon boulot de dans deux ans, et puis surtout ce slogan qu'on va entendre.
Compagnons, mangez des pommes!
Il y a une histoire derrière ce slogan.
Oui, alors il y a une histoire, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout ça est un peu ancien. Aujourd'hui, on entend que c'était le slogan de Jacques Chirac pendant sa campagne présidentielle, mais pas du tout. Ça venait d'un livre, programme qu'il avait sorti, qui s'appelait La France pour tous, je crois. Ouais. Et donc nous, évidemment, on travaillait sur l'image publique des personnages et non pas sur les vraies personnalités. Et donc notre PPDA avait reçu Jacques Chirac et trouvait que ce livre était vide. Et lui disait, ce programme est un peu vide, mais par contre, il y a un petit pommier devant. Et pourquoi il y a un petit pommier? Et donc la marionnette de Jacques Chirac disait, parce que j'aime bien les pommes et manger des pommes. Voilà. Et ça devenait son slogan dans les Guignols, qui était censé contrer la vacuité de son programme, c'était manger des pommes. Ça n'a jamais été le slogan de Jacques Chirac, évidemment, qui était un homme politique bien plus pertinent que cela.
Mais ce slogan l'a rendu sympathique, et on dit même que c'est vous, les Guignols, entre autres, qui l'avez fait élire, alors qu'il partait battu.
Oui, j'ai entendu ça encore la semaine dernière. Quelqu'un de TF1 m'a dit que les Guignols avaient fait élire Jacques Chirac, et je pense que TF1 a fait plus de mal à la France quand même en 30 ans que les Guignols, quand même, j'ai l'impression. Enfin, pas du tout, c'est-à-dire que nous avions un personnage, je l'ai entendu, vous l'évoquiez tout à l'heure avec vos invités, on a un personnage qui avait perdu deux fois de suite les présidentielles, qui avait une image, comme on dit, de loser, de poulidor, comme on disait à cette époque-là, et donc le duo de comédie, parce qu'on est dans la comédie aux Guignols, c'est-à-dire le perdant éternel, et puis Édouard Balladur qui avait cette espèce de, comment dire,
il marchait sur l'eau.
Qui marchait sur l'eau, qui ne montrait pas d'affect, qui était sûr de lui, et on se disait, tiens, il va y avoir une trahison, est-ce qu'il y aura une trahison, et de montrer Jacques Chirac, comme le disait M. Cabache tout à l'heure, un peu tendu, un peu énervé, comme on le connaissait sur les plateaux, ça donne un duo de comédie qui est formidable, puisque nous faisions de la comédie, ou nous essayons de le faire, et donc évidemment, on a creusé ça. Et on sait bien que dans ces cas-là, que ce soit dans Laurel et Hardy, ou Jerry Lewis, Dean Martin, bah celui qui est énervé est celui qui fait le plus rire, celui qui est le plus sympathique, le clown blanc l'est beaucoup moins, et Balladur jouait le rôle du clown blanc.
Et alors je crois, une anecdote pour finir, je crois qu'il vous a invité à dîner.
Alors, il nous a invités parce qu'à l'époque, Thierry Rey, ancien champion olympique de judo, était consultant avec Canal+, et c'était le gendre de Jacques Chirac.
Ouais.
Et plusieurs fois, il nous a dit, vous savez, ça fait beaucoup rire Jacques Chirac, il aimerait bien que vous veniez déjeuner à la maison et tout ça, et nous avons toujours refusé parce qu'on considérait que... Moi, je ne connaissais personne, même Jean-Pierre Cabache, qu'on a assez souvent caricaturé dans les Guignols, sur son image publique, une fois de plus, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, et nous, on ne voulait pas rencontrer les personnes pour ne pas justement interférer avec notre travail. C'est pareil, François Mitterrand parle bien d'André Rousselet, nous avons invité à déjeuner plusieurs fois, et on a toujours décliné.
Attendez, Jean-François, Jean-Pierre Alcabache est devant moi, je ne peux pas rester à la question. Est-ce que votre marionnette vous fait rire ou vous rendez furieux?
Elle m'a fait rire longtemps, sauf vers la fin, quand on me déguisait en distributeur de patates. Voleur de patates ou de quelqu'un qui giflait. Mais puisque vous faites plus les Guignols et que moi, je fais plus un certain nombre de choses, on pourrait se rencontrer et enfin prendre un café et rigoler ensemble.
Mais j'adorerais. En plus, j'ai travaillé Europe 1 il y a très très longtemps et je vous avais croisé, mais évidemment. Mais je sais que c'est difficile, puisque vous savez, moi, je suis ami avec Patrick Timsit, qui a eu sa marionnette aux Guignols de l'info, et lui-même l'a mal vécu. Mais parce qu'on travaillait une fois de plus sur l'image publique. Moi, je ne connais rien de la vie privée de Jacques Chirac. Je ne l'ai jamais rencontré, ni de celle de Jean-Pierre Alcabache.
Merci.
Et c'est l'image publique, dur de voir ce miroir.
Oui, mais les caricatures étaient parfois osées et dans certains cas, j'ose pas dire qu'elles pouvaient frôler aussi le racisme.
Alors, ne lançons pas un débat sur les caricatures, c'est pas le moment. Merci beaucoup Jean-François. Je rappelle que vous êtes scénariste, vous avez écrit la série Au service de la France qui a reçu le prix du meilleur scénario et les films OSS 117 et si je suis bien informé, le troisième est en préparation. Merci d'avoir été avec nous au pied levé en direct sur Europe 1.
Merci Philippe, à bientôt.
À bientôt. Christine Claire, vous voulez raconter une anecdote sur... Je vous raconte cette anecdote sur Jacques Chirac.
Oui, non, je veux dire, son image était gérée par sa fille Claude, ouais, qu'il avait suivie en campagne, puis à l'Élysée. Et l'idée de Claude, c'était de rajeunir son père, donc il ne fallait pas trop montrer sa mère, qui était plus à droite, plus...
Que les Guignols appelaient maman.
Que les Guignols appelaient maman. Et quand Bernadette organisait même un déjeuner pour des agriculteurs, à l'Élysée, elle arrivait au déjeuner, on lui disait ben non, madame, vous n'êtes pas conviée, alors qu'elle-même l'avait organisé. Bon, et puis il y a eu la naissance du fils de Claude et une série de photos dans Match sur 6 pages où il y avait Jacques, Claude, le petit garçon, voilà, et pas Bernadette. Et à ce moment-là, j'ai été réconciliée avec Bernadette. Donc je fais une grande interview d'elle dans le Figaro et elle me dit le président de la République est veuf. Je ne suis personne. Elle en avait quand même ras-le-bol. Et donc, ça fait évidemment un nouveau scandale. Claude Chirac a été furieuse. J'ai été de nouveau en quarantaine. Et après, j'ai pu me réconcilier grâce à Dominique de Villepin, parce que j'allais voir Dominique de Villepin. Et Jacques Chirac entrait par hasard dans son bureau, donc avec beaucoup de cordialité.
Alors ici, l'émission s'appelle Culture Média. Et Jean-Pierre Alcabache, Jacques Chirac n'était pas étranger à la culture. Et c'est pas un euphémisme.
Ça, c'est évident, on va en parler tout à l'heure. Mais à partir de 1988, je l'ai beaucoup vu. C'est pas une anecdote, mais les formules de Jacques Chirac, on les connaît tous et on va les retrouver dans la presse, orale ou écrite. Mais il envisageait de devenir antiquaire. En 88, comme il avait été écarté du pouvoir et battu par François Mitterrand, lui qui se sentait homme de culture et qui connaissait tellement toutes les civilisations africaines, asiatiques, etc., c'était des amis qu'il fréquentait volontiers, à partir de 88 et pendant ces années 88, 92, 13, avant de revenir, il était débarrassé des politiques, il le disait, débarrassé de nous les journalistes. Pour nous, on était nécessaires, mais on était des imposteurs, des inquisiteurs et des irresponsables.
Voilà, vous savez, c'est sûr. Vous avez fait beaucoup de radio, vous savez que le temps compte en radio, il nous reste 2 minutes, je voudrais que vous racontiez l'anecdote du Quai Branly.
L'anecdote du Quai Branly, d'abord le Quai Branly, ça n'existait pas. Nous étions sur une plage de l'île Maurice, sur l'océan Indien.
Et avec Jacques Chirac.
Jacques Chirac était pas loin avec Bernadette Chirac, moi j'étais avec Nicole Avril, mon épouse, et on lisait, chacun de son côté, lui lisait des livres de la préhistoire. De la préhistoire, il faisait des fiches qui soulignaient sur la plage. Il se baignait pas, mais il lisait. Et il y a quelqu'un qui est arrivé vers nous étions tous en maillot, et qui est venu lui dire, est-ce que vous pouvez me présenter Jacques Chirac, puisque vous êtes journaliste, vous devez le connaître. J'hésite, je vais voir Jacques Chirac, et il me dit, alors foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille, je suis en vacances, je ne veux voir personne. Et à ce moment-là, Bernadette, qui était près de lui, lui dit, mais Jacques, c'est peut-être un des nôtres, voyez-le. Donc je vais le chercher, je le ramène, et cette personne lui dit, tous en maillot, merci pour ce que vous faites pour la France, pour la ville de Paris, et puis je vous remercie parce que j'ai vu dans Paris Match, sur 2 pages, la photo de votre bureau, qui est formidable, et vous avez mon livre sur votre bureau. Chirac lui dit, mon livre, mais j'ai pas de livre. Il dit, non, mon bureau, il n'y a rien. Et l'autre lui dit, oui, vous avez mon livre. Je vous dis non. Il le prend par les épaules, il le secoue, il lui dit, il n'y a pas de livre. Il n'y en a qu'un. C'est de Jacques Kerchage sur l'Afrique. Et l'autre lui dit, c'est moi, Kerchage. Alors là, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, ils se sont embrassés, et à partir de là, tous les soirs, nous dînions pendant une semaine ensemble. Il parlait des tribus africaines, des empires africains qui avaient vendu leur peuple pour l'esclavage, etc., etc. Et là, Jacques Kerchage lui a dessiné sur le sable, jour après jour, ce que devait être le musée des arts premiers. Et d'ailleurs, il s'était disputé au début parce que Chirac disait, je veux créer un musée des arts primitifs. Il disait, non Jacques, des arts premier. Oui, Jacques. Non, Jacques. Non, Jacques. Et finalement, peu à peu, on est allé vers la construction. Il faudra faire venir des pièces du musée de l'homme, des pièces de l'étranger. Kerchage était un très, très grand collectionneur. Et à partir de là, c'est parti. Et ce Kerchage, je sais qu'il faut aller vite, avait effacé sur le sable le dessin qu'il faisait. Il lui dit, pour ça, il faut que vous soyez élu président de la République. Et merci, c'est là qu'on a découvert la culture, l'immense culture,
d'un mot qui universel. On est déjà en retard.
À propos de culture, ce qui m'a toujours étonné, il était passionné évidemment par les arts premiers, mais très peu par la culture française. Il ne parlait pas d'histoire de France ni de littérature française. Un jour, j'allais le voir en été. Bon, ce jour-là, il ne voulait pas parler de politique, alors il a dû parler de ce que vous voulez, de mes appétits, de mes goûts culinaires, etc. De ce que vous voulez. Alors, je dis, alors parlons de vos lectures, si vous voulez. Ah, alors cet été, j'ai lu tout. J'ai lu tout. Pas Julien Lepers. Saint-Jean-Pers.
Voilà, c'est pas Julien Lepers, Saint-Jean-Pers.
Et avec un geste de sabre, comme ça, mais sans en tirer un mot, une réflexion, et finalement ça ne l'intéressait pas du tout. Je pense qu'il y avait dans ce message une façon de dire aux Français, vous n'êtes pas le centre du monde. Cessez de vous prendre pour le centre du monde.
Ça aussi. À l'âge de 13 ans, il n'allait pas à l'école, et vous savez où il allait ? Il allait au musée Guimet, et il allait suivre des cours avec un professeur qui venait de l'Union soviétique, qui était exilé à Paris sans le sou. Il allait prendre des cours.
Voilà, on parlera tout à l'heure justement du musée du Quai Branly. Merci beaucoup Christine Claire, journaliste, éditorialiste. Merci Jean-Pierre Alcabache. Tous les matins sur CNews à 8h15 et le dimanche à 19h, ça s'appelle Sans Détour. Merci d'avoir été avec nous en direct ici.
Et c'est Claire Chazal.